Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Je pense que vous et moi, nous ne comprenons pas tout. C'est pas vrai? Ésaïe l'exprime dans Ésaïe 55 au verset 8. On va faire trois lectures. Je voulais chanter un cantique, on le chantera à la fin. Je voulais chanter ce cantique qui correspond bien à la prédication. C'est « En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps ». J'aimerais qu'on le chante tout à l'heure et je pense que vous le chanterez différemment après cette exhortation. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un petit peu avant, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, nous allons lire le verset 1 et le verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er et verset 11. C'est le verset 11 qui nous intéresse, mais c'est bien de rappeler l'introduction de ce chapitre pour que nous comprenions qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire. Vous le savez qu'il y a un temps pour rire? Et il y a un temps pour pleurer. Vous êtes d'accord pour ça? C'est comme ça. Il vaut mieux être d'accord d'ailleurs. Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous y êtes? Verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je relis la dernière partie de ce verset 11. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Et nous allons faire une troisième lecture dans l'épître de Jacques. Un texte que j'ai souvent abordé. Dans Jacques au chapitre 1er, au verset 2, c'est un texte qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des fois des gens, j'ai envie d'apprendre des promesses, mais purée, apprenez ce texte. Il vaut mieux que vous appreniez ce texte que des promesses, croyez-moi. Jacques chapitre 1er, verset 2. Mes frères, mes sœurs aussi, vous inquiétez pas. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Personne ne dit amen, je comprends un peu, bon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce qu'il y a des frères qui veulent faire des progrès dans le perfectionnement, qui veulent être accomplis? Accomplis, c'est-à-dire qui sont comme Dieu veut qu'ils soient. Il y en a des frères? Eh bien, vous serez éprouvés. Ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, la fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Vous pourrez lire la suite, ça vaut la peine de lire l'épître de Jacques parce que c'est vraiment tout le côté pratique de la vie et de la marche avec Dieu. Nous venons de lire « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » ou l'épreuve. C'est pour ne pas se répéter, mais en vérité, « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve car après avoir été éprouvé ». Mais en vérité, c'est le mot « épreuve ».« Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ». vous avez lu la Bible, ou une partie de la Bible, et vous avez vu que tout le long de la Bible, des hommes ont été brisés, des hommes ont été éprouvés. Vous avez lu la parole de Dieu. Les hommes étaient bénis, vous avez remarqué la bénédiction de Dieu sur les hommes. Est-ce que vous avez remarqué que les hommes ont été éprouvés? Vous l'avez remarqué? Bon. Alors on n'a pas de mal à comprendre la bénédiction. Est-ce que ça vous gêne, vous, qu'on parle de la bénédiction? Vous comprenez la bénédiction? Est-ce que vous comprenez que Dieu veuille nous bénir? Oui. Est-ce que vous comprenez que Dieu veuille également nous éprouver? Est-ce que les gens le comprennent, ça? Je ne suis pas sûr que tous les chrétiens comprennent que Dieu a absolument besoin de nous éprouver. Quand on voit une personne, vous regardez quelqu'un, vous le regardez, vous savez pas ce qu'il a, si vous ne le connaissez pas, vous savez pas ce qu'il a vécu avant, vous savez pas ce qu'il vivra après, vous pouvez à peine savoir, si vous discutez avec lui, ce qu'il est en train de vivre au moment présent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il n'y a que Dieu qui sait exactement ce qui est en train de se passer dans le cœur d'une personne. On ne sait jamais, est-ce que vous savez ce qui nous arrivera après? Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Combien de temps il vous reste à vivre? Ce que Dieu a préparé pour vous? Ce que Dieu veut faire avec vous? Est-ce que quelqu'un peut dire, se lever et dire, oui, moi je sais ce que Dieu veut faire avec moi? Même quelqu'un qui a reçu une certaine révélation ne peut pas savoir exactement ce que Dieu va faire avec lui. Je vais partir d'un exemple, vous allez facilement le comprendre. Quand les Égyptiens ont vu Joseph, vous savez Joseph qui est apparu comme ça, à 30 ans, dans les rues d'Égypte, et que tout le monde devait se prosterner devant lui. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'est arrivé ou c'est pas arrivé? Il s'est arrivé, il était là dans un des plus beaux chars de Pharaon, et tous les Hébreux, les Égyptiens, ces ouvriers, ces paysans qui étaient là dans les rues, qui marchaient, ces commerçants, ont entendu dire qu'il fallait se prosterner devant ce jeune juif. Je ne sais pas, certains ont dû se regarder en disant, non mais, qu'est-ce que c'est cette affaire? Vous êtes d'accord avec moi? Quand on connaît l'histoire, bon, on dit c'est normal, mais imaginez-vous ces Égyptiens qui sortent dans la rue et qui entendent tout d'un coup les gardes de Pharaon dire, voilà, prosternez-vous devant cet homme. C'était un ordre de Pharaon, personne ne pouvait y échapper. Et les gens devaient se prosterner et dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce que vous imaginez dans un pays arabe un premier ministre juif? Nous, tout ça, on comprend. Mais imaginez-vous dans la tête des gens. Ils devaient dire, mais c'est la fin des haricots, plutôt, c'est la fin du papyrus. Ils devaient se dire, mais c'est pas possible, c'est la fin. Imaginez-vous. Vous êtes d'accord avec moi? Ça devait quand même être quelque chose de... Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pour qui il se prend? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et on pourrait multiplier toutes les questions que ces Égyptiens ont pu se poser à juste titre. Ce qui nous prouve que notre façon de voir à nous est limitée. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne pouvaient pas comprendre. Certains devaient être enragés par rapport à ce qui se passait. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez qu'on ait en France un premier ministre arabe. Je dis ça avec beaucoup de considération. Je pense que ça serait peut-être très mal perçu, ça provoquerait quelques vagues. Notre façon de voir est limitée. J'ai donné l'exemple pour que vous compreniez bien que c'était la même chose. Pourquoi Jésus nous demande-t-il d'acheter un collier pour oindre nos yeux? Vous savez, tout à l'heure, quand M. Blanc nous a demandé de chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé », est-ce que c'était bien? Peut-être qu'il veut devenir meneur de chant, Monsieur Blanc. C'est pour ça. Mais si ce n'est pas ça, imaginons qu'il ait voulu le chanter, est-ce que vous pensez que ce ne sont pas les gens les plus riches de la terre qui peuvent chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé » Sérieusement, devant Dieu, est-ce que ce ne sont pas les chrétiens, les hommes les plus riches de la terre, les gens qui peuvent chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé » Et nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux. Ça, la Bible dit, mais offrez vos corps à Dieu afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens ne discernent pas la volonté du Seigneur. Alors on pourrait prendre tous ces textes où Dieu veut que les yeux de notre cœur soient ouverts, les yeux de notre cœur s'illuminent, etc., etc. Comme Paul ou Jésus dit, mais vous avez des yeux et vous ne voyez pas. C'est exactement ce qui se passe quand beaucoup de chrétiens se débattent avec ce qu'ils sont en train de traverser. Nous ne pouvons pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Vous avez lu l'Ecclésiaste avec moi? Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc pour certains chrétiens, toute leur vie, ils sont dans le flou, ils ne comprennent pas l'œuvre que Dieu veut faire. Ces ouvriers égyptiens, ces paysans, etc., devaient être profondément meurtris par rapport à ce qui était en train de se passer dans ce pays. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne comprenaient pas que Dieu était en train de préparer quelque chose. Dieu était en train de prévoir sur du très long terme. Vous croyez que Dieu prévoit sur le long terme? Oui. Il ne savait pas ce que Joseph avait vécu. Bien sûr qu'ils l'ont vu dans des habits de fin lin, avec un collier d'or, l'anneau de Pharaon, qui représentait vraiment les crédits illimités. Est-ce que vous vous imaginez, aujourd'hui, ce serait la plus belle limousine, la deuxième limousine du pays, dans laquelle il se déplacerait? Il ne comprenait pas. J'insiste, nous on comprend, parce qu'on connaît le livre de la Genèse. Mais quelqu'un qui ne sait pas le plan de Dieu ne pouvait qu'être écœuré, exaspéré par ce qui était en train de se passer. Et beaucoup de chrétiens, je ne parle pas des païens, les païens, moi, c'est de bonne guerre, mais combien même des chrétiens ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne savaient pas qu'il avait passé des années en prison. Est-ce qu'ils le savaient qu'il avait... Mais non. Peut-être certains, oui, tu sais, c'est un juif, il a passé des années en prison, je ne sais pas trop, qu'est-ce que c'est cette affaire, ça s'est un peu tiré par les cheveux, enfin bon. Ils ne savaient certainement pas combien Joseph, pendant toute sa vie, avait été un homme fidèle devant Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui le savait. On ne peut pas tout savoir de la fidélité de quelqu'un. Est-ce que parce que quelqu'un va à l'église tous les dimanches, c'est forcément quelqu'un de fidèle? Répondez-moi. Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est fidèle. Joseph, on le sait, a prouvé sa fidélité à Dieu dans tout ce qu'il a traversé. Est-ce qu'il a été éprouvé, Joseph? Vous avez lu, moi c'est un des livres sur lequel j'ai le plus pleuré, l'histoire de Joseph. Je ne sais pas vous, si je l'ai lu 20 fois, sur 20 fois j'ai dû pleurer 18 fois. Tellement c'est magnifique cette affaire. Il a été éprouvé, il a été épuré, il a été raffiné comme de l'or peut être éprouvé par le feu. À quoi pensait-il? Parce que ce que les Égyptiens pensaient, c'est bien. C'est bien de s'imaginer. Mais lui, que devait-il penser lorsque il était là sur ce char et que tout le monde se prosternait devant lui? Imaginez-vous, il n'avait que 30 ans et tout le monde était obligé de se prosterner devant lui. Est-ce que c'est lui qui a cherché ça? Est-ce que c'est lui qui a dit, maintenant que je suis Premier ministre, je vais vous montrer. Est-ce que c'est lui qui a demandé qu'on se prosterne? Non, c'est qui? C'est Pharaon qui a demandé ces choses. Vous savez, c'est important de savoir aussi ce que les autres demandent ou ce que nous on demande. Là aussi, ce n'est pas la même chose, croyez-moi. Que se disait-il? Que pensait-il lorsque Pharaon était là, revêtu de ses vêtements royaux, sur ce char? Peut-être qu'il repensait à ses songes. Vous vous rappelez ces songes qu'il avait faits, qui indiquaient que les gens se prosterneraient devant lui? Il a dû penser à beaucoup de choses. Est-ce qu'il parlait au Seigneur? Est-ce que vous pensez que Joseph, sur ce char, a dû louer le Seigneur? Moi je pense qu'il a dû chanter « Béni soit le Seigneur ». C'est lui qui a dû en écrire plusieurs, j'en suis sûr. Peut-être qu'il a dû dire « Merci Seigneur de m'avoir aidé à supporter toutes ces années de souffrance ». Peut-être que vous pouvez dire pareil ce matin. Peut-être que plusieurs parmi vous, vous pouvez dire « Mais moi je bénis Dieu de ce que ça fait pendant des années, Dieu m'a aidé à supporter les souffrances que j'ai traversées ». Je pense qu'il devait penser à beaucoup de choses qu'il avait apprises pendant ces 13 années de souffrance. Les années d'épreuve, les années de souffrance, les années de souffrance dues aux épreuves, la souffrance due à la méchanceté des autres. Est-ce que ça peut arriver, ça? On peut souffrir à cause de son péché, bon, ça s'explique, mais c'est normal, mais on peut souffrir à cause de la méchanceté des autres. Est-ce que ça arrive, ça? Eh oui. Les mauvais traitements, est-ce qu'il y a des gens qui ont été maltraités? On pourrait en parler pendant une heure, parce que c'est à propos. Vous connaissez ce texte, ne le cherchez pas, c'est 1 Pierre 2, 20, pour ceux qui veulent peut-être le méditer. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est clair. Mais, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Parce que quand on souffre parce qu'on s'est mal comporté, après tout, on a semé, on a récolté ce qu'on a semé. Après tout, oui ou non? Mais quand on souffre parce qu'on a été droit devant Dieu, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? C'est une grâce devant Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai pris ce texte d'Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, autant les cieux sont élevés. Alors si vous avez quelques connaissances en astronomie, ça vous donne une idée de la différence qu'il peut y avoir entre la pensée de Dieu et la nôtre. Nos pensées, nos pensées. Il y a des chrétiens, quand on discute avec eux, on voit très bien qu'ils sont, mais ils n'ont même pas la pensée de la grâce. Ils sont dans les ténèbres, ils sont dans le péché. C'est quand même alarmant, il faut quand même en parler. Il y a des chrétiens qui ont court-circuité le plan de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il est écrit « toutes choses concourent au bien ». Il faut quand même lire le verset en entier. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et moi, souvent, j'ai lu dans des bouquins ou dans des mêmes, j'ai entendu « oui, toutes choses concourent au bien ». Ce n'est pas vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que lorsqu'on n'aime pas Dieu, c'est exactement comme quand vous court-circuitez l'électricité. Vous n'y voyez plus rien. Et il y a des gens, bien sûr, mais ça c'est votre affaire, mais moi en tant que pasteur, je dois vous le dire, si vous vous amusez à court-circuiter le plan de Dieu, cette prédication, je vous avoue qu'elle ne vous servira pas à grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui aiment le péché. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui aiment le péché? Ça fait mal au cœur de le dire, mais il y a des chrétiens qui aiment l'adultère, ils aiment... Alors là, écoutez, moi je vous le dis, parce que je sais que je vais rendre grâce, rendre des comptes à Dieu. Aimer la droiture et la justice. Cette prédication, elle est pour que nous comprenions l'épreuve, pour que nous comprenions les voies de Dieu. Les voies de Dieu, bien sûr, pour beaucoup de gens, les voies de Dieu, moi quand je discute avec des gens, parfois je m'arracherai les cheveux, parce que les gens, ils calculent sur le court terme. Bon, une personne fait le bien, elle fait le bien, doit être bénie. Attention, j'ai pas fini. Hein. Une personne fait le mal, elle va avoir des conséquences négatives, elle va être punie. Alors, c'est pas immédiat, ça. C'est pas parce qu'une personne obéit à Dieu qu'elle va de suite être bénie. C'est pas parce qu'une personne fait le mal qu'elle va être immédiatement punie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que les gens se débattent avec le plan de Dieu. Quand il n'y a pas la gloire de Dieu, c'est ce qui se passe. Regardez Ananias et Saphira, il y avait la gloire de Dieu dans l'église, vous avez vu? Immédiatement, le péché a été condamné. Les fils d'Élie, vous savez ce qu'ils faisaient les fils d'Élie? C'est presque honteux de le dire. Est-ce qu'ils ont été punis, eux? Est-ce qu'ils ont été punis de suite? Non. Ils ont été punis bien plus tard. Ça faisait peut-être des années qu'ils pratiquaient la fornication, qu'ils volaient, vous savez, la viande fraîche, parce qu'ils ne voulaient pas la viande cuite. Enfin, c'est des choses graves. Ce n'est pas parce qu'on obéit qu'on n'aura pas d'épreuve. Et ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on va être immédiatement puni. Et les gens, rien que ça, voyez, rien que ça, c'est une dimension à laquelle il faut réfléchir. Joseph a obéi à Dieu. Est-ce qu'il a été en prison parce qu'il a obéi à Dieu? Oui ou non? Est-ce qu'il a été en prison parce qu'il avait volé Potiphar? Non, il a été en prison parce qu'il a obéi à Dieu. Et je ne pense pas que c'était les prisons d'aujourd'hui. Croyez-moi. C'est pour ça qu'il faut penser à ces choses et ne pas être, je veux dire, stupide. Ouais, je ne comprends pas, j'ai obéi et je suis dans l'épreuve. Ou je ne comprends pas, ce chrétien, il vit dans le péché et il est béni. Mais ne parlez pas comme ça. Vous croyez qu'on peut tromper Dieu? Et puis, s'il est béni en vivant dans le péché, c'est son affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sommes-nous pour commencer à nous griller en ayant tel et tel comportement? L'injustice et les mauvais traitements, je peux vous dire que Joseph savait ce que c'était. Il a été maltraité par sa famille, lui. Oui, toute sa famille. À part son père, qui le défendait, tous ses frères étaient jaloux contre Joseph. Tous ses frères, vous rappelez l'histoire. Moi, j'ai lu un bouquin, je vous en ai parlé il y a quelque temps, où justement, quelqu'un disait, oui, Joseph, s'il a vécu ça, c'est parce que c'était un orgueilleux. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, Dieu résiste aux orgueilleux. Il était naïf, il n'aurait peut-être pas dû dire certaines choses. Mais mes frères et sœurs, Joseph n'était pas un orgueilleux. Joseph était quelqu'un de droit et d'intègre. Oui, il a souffert parce que sa famille, toute sa famille, pour ainsi dire, l'a rejeté. Ses frères le haïssaient. Vous vous rendez compte? Être haï par ses frères, ça doit être terrible. Être haï par les propres gens de sa famille. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Non seulement ils l'ont haï, mais ils se sont rangés pour lui casser la figure. Lui casser la figure dans le but de le tuer. Et comme Dieu n'a pas permis quand même, ils l'ont jeté dans une citerne, et comme par hasard, il y avait une caravane de Madianites qui passait, ils se sont dit, plutôt que de le tuer, on ne va pas trop se salir la conscience, on va le vendre. Donc, on voit ce jeune à 17 ans, haï, abandonné, vendu, devenir esclave dans un pays étranger dont il ne connaissait pas la langue. Nous, on est là, on ne se rend pas compte de la souffrance qu'a dû vivre ce gars. Il n'avait que 17 ans. Dieu va diriger, puis ensuite, paf, quelques temps après, combien de temps ça a duré, un an, deux ans, pour qu'il ait la confiance de Potiphar, je pense que ça a dû prendre un an ou deux ou trois, pour que cet homme lui confie absolument tout. Donc, il a été accusé, injustement, par la femme de Potiphar, qui voulait coucher avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Vous savez, une fois, je voulais raconter ça, j'ai failli pleurer en prêchant. J'étais dans une église, je faisais une réunion de jeunesse, et je racontais l'intégrité de Joseph. Et j'ai dit, répondez honnêtement. Il y avait des garçons. J'ai dit, vous répondez honnêtement. C'est devant Dieu que je vous pose la question. Vous seriez dans un pays étranger, seul, croyant. Vous avez l'opportunité de coucher avec une femme, une jolie femme. Personne n'est au courant. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous couchez avec? Ils ont tous levé la main. Vous voyez un peu la différence? Moi, j'ai continué à prêcher, j'étais furieux. J'ai pas voulu parce que je leur avais demandé d'être honnête, oui, j'étais furieux. Parce que c'est là qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes chrétiens ne sont pas convertis. Eh oui, vous êtes au bout du monde, personne ne le verra, mais enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit le voir quand même. Et voyez ce manque d'intégrité. Et je sais pas aujourd'hui, je pose pas la question, j'espère que les frères, vous avez aussi d'honnêteté pour être touché par ce que je suis en train de vous dire. Et cet homme, il se retrouve en prison parce qu'il a été droit. Quand on se retrouve en prison parce qu'on a tué quelqu'un, je veux dire, bon, ben c'est normal, oui ou non? Mais quand on se retrouve en prison parce qu'on a été droit devant Dieu, est-ce que vous vous rendez compte? Et j'ai pris le psaume 105, 18, quand il a dit, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Je ne sais pas si vous rendez compte. Parce qu'il a été juste devant Dieu. Vous voyez, quand des gens disent, oui, je ne comprends pas, j'obéis, et ça a foiré, j'obéis, et ça ne marche pas. Si c'est ça, marche avec Dieu. Mais ne calculez pas sur le court terme. Ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler les chrétiens. Si nous voulons comprendre les voies de Dieu, si nous voulons comprendre un tant soit peu les pensées de Dieu, il faut commencer à accepter l'idée que Dieu ne punit pas forcément le méchant de suite. C'est pour ça, genre, oui, si Dieu existait, combien de gens sont en enfer parce qu'ils se sont boycottés vraiment catégoriquement le ciel en disant si Dieu existait, si Dieu nous aimait, il n'y aurait pas tout ce bazar qui se passe sur la terre. C'est pas ça que les gens disent? Voilà. Il y a des millions de gens qui sont en enfer, mais parce qu'ils ont d'emblée pensé que ce qu'ils pensaient était la vérité. Mais heureusement que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Vous croyez pas? Heureusement. Bien sûr, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions ces choses. Les épreuves, il faut y réfléchir. Jacques le dit bien, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Beaucoup de chrétiens ont rétrogradé, pour cette simple et unique raison. Quand Jésus dit, mais ils reçoivent la parole de Dieu, avec joie, ils croient, pour un temps, qu'est-ce qu'il dit? Dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Ils ne comprennent pas que le Seigneur nous bénit et que le Seigneur nous éprouve pour faire de nous les vases que Dieu veut qu'il fasse. C'est vrai que ça devait être terrible. Il avait 17, 20 ans, 21. Il s'est retrouvé emprisonné comme ça, comme misérable dans ce pays étranger. Pas question de pouvoir faire appel. Vous avez vu aujourd'hui, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas parlé? Après tout, il n'y avait pas parlé, Dieu, quelques années avant. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé? Pourquoi Dieu ne lui a pas répondu? Pourquoi Dieu reste silencieux? Après tout, il y a des gens, je ne comprends pas. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Je ne comprends pas. Dieu pourrait me parler. Et s'il ne veut pas? Mais vous ne croyez pas que Dieu est souverain? Mais vous lui faites confiance ou non? Vous croyez que Dieu sait quand est-ce qu'il doit nous parler? Peut-être qu'il est en train de le faire. Il doit être en train de le faire. Mes frères et sœurs, mais qui sommes-nous pour douter de l'amour de Dieu si Dieu ne nous parle pas? Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire à Joseph, écoute, tes frères, ils vont te mettre une tannée, ils vont te frapper, ils vont te vendre, tu vas partir en Égypte, tu vas souffrir, tu vas aller en prison, injustement. Est-ce que Dieu aurait pu le lui dire? Bon, mais tout ça, on n'a plus besoin de marcher par la foi si Dieu nous dit tout. Et donc, ça contredirait toute la parole. Dieu veut que l'on marche par la foi, c'est-à-dire par la confiance. Il n'y a pas besoin de dire pourquoi si et pourquoi. Si vous faites ça, je vous le dis, c'est parce que vous ne connaissez pas encore Dieu. Si vous êtes tout nouveau, c'est normal, vous découvrez l'évangile, vous avez été endoctriné par la pensée rationaliste. Mais si vous êtes un vrai chrétien, vous savez que ces choses sont vraies. D'ailleurs, on va regarder quelque chose d'important. Dans cette histoire-là, qui nous préoccupe, Genèse 39, il y a quand même une indication. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bon, alors là, quand cette femme a voulu coucher avec lui, il a refusé. Il a refusé, il s'est enfui. Tous les jours, elle venait le harceler. Tous les jours. Enfin, on ne va pas tout lire. Et lui, il a fuyé. Regardez bien. Bon, on va lire à partir du verset 20. Lisez ces histoires, ça vaut la peine. Vous comprendrez mieux l'épreuve. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là, en prison. Bon, c'est vite lu. Regardez la suite. C'est la suite qui nous intéresse. L'Éternel fut avec Joseph. Ce n'est pas parce qu'on est en prison, dans le désert, que Dieu n'est pas avec nous. Lisez le livre de Jérémie et vous allez voir que ce brave pasteur, il a été je ne sais pas combien de fois emprisonné et encore en prison, mais Dieu était avec lui parce que Dieu lui parlait, croyez-moi. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Regardez bien ce qui est dit, parce que l'Éternel était avec lui. Donc, en 2-3 versets, il est répété 2 fois, l'Éternel fut avec Joseph. Voilà la vérité qui nous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse, que vous soyez dans l'épreuve, dans le désert ou dans la bénédiction, que Dieu soit avec vous? C'est là la clé de la bénédiction. Jamais Dieu ne pouvait abandonner Joseph. Vous le comprenez? Parce que cet homme, il était intègre. Il n'a pas calculé, on le voit, c'est évident. Quand vous regardez l'histoire, lisez 20 fois l'histoire, vous aurez l'impression de connaître le Joseph, et vous verrez que cet homme avait une confiance totale en Dieu. Et il n'a pas commencé à dire oui, parce que quand même, je ne sais pas ce que certains chrétiens diraient s'ils étaient emprisonnés, parce qu'ils ont été droits devant Dieu. Il y en a qui abandonneraient Dieu, c'est terminé, je ne veux pas y revenir. Mais Dieu n'a jamais abandonné Joseph, parce que Joseph était en premier, Dieu était en premier dans la vie de Joseph. Et c'est déjà la première question que nous devons nous poser. Dieu est-il en premier dans ma vie? Ça, c'est une question très sérieuse que l'on doit poser dans les églises, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on va dans une église que Dieu est en premier. Il y a des gens qui vont à l'église, qui regardent de la pornographie à la télévision, laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas en premier dans leur vie. Et ne vous imaginez pas, parce que vous êtes venu à l'église et que vous avez pris le pain et le vin, que ça va vous laver, si vous vivez volontairement dans le péché. Voilà, Joseph, lui, aurait... Est-ce que Joseph aurait regardé des sites pornographiques? Moi, je peux vous dire qu'il aurait su certainement ce qu'il avait à faire. Et David comprenait certainement cette affaire. On le voit plus loin. Il dit, mais c'est pas vous. Il dira à ses frères, mais c'est pas vous qui m'avez amené ici. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu. On voit vraiment cet homme qui avait une confiance totale en Dieu. Quand David dit dans le psaume 119, verset 71, il m'est bon d'être humilié. Je continue? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne. Le problème, c'est ça. Est-ce qu'on veut apprendre? On en a parlé la dernière fois. J'ai appris à être content. Tout s'apprend. Apprendre à savoir comment se comporter dans l'épreuve. Ça s'apprend également. Il m'est bon d'être humilié. Est-ce que c'était bon que Dieu humilie David? David, oui, également pendant des années avant qu'il devienne le roi qu'il est devenu. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh oui. Peut-être que ça aurait été bien que Saül soit un peu plus humilié. Ça lui aurait rendu service. Pourquoi l'Éternel était avec Joseph? Parce que qu'est-ce que vous pensez, vous, quand vous lisez ça? L'Éternel fut avec Joseph. Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, en tous les cas, moi, ça me fait du bien. Oui, parce que, je l'ai dit, Dieu était en premier. Je nous pose la question, Dieu est-il en premier dans ma vie? Est-ce qu'en toutes circonstances, voilà, peut-être le présenter différemment, est-ce qu'en toutes circonstances, je veux faire la volonté de Dieu? On chante parfois ce cantique qui est beau, en tout temps, je le bénirai. On le chante souvent, hein? En tout temps, je le bénis. Vous le connaissez? Franchement, si vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, il vaut mieux se taire quand ce cantique est projeté. En tout temps, je le bénirai. Voilà à quoi correspond quelqu'un qui a mis Dieu en premier. Il est dans la bénédiction, eh bien c'est bien, merci Seigneur. Il est dans l'épreuve, je ne comprends pas, je te fais confiance. Je ne veux pas calculer sur le court terme. Le court terme, mes frères et sœurs, c'est un piège. Vous ne savez pas comment Dieu, l'autre jour j'ai prêché, qu'est-ce que vous auriez pris vous? Un prince d'Égypte de 40 ans pour faire l'œuvre de Dieu? Ou un vieux berger de 80 ans? Qu'est-ce que vous auriez pris? Sans connaître l'histoire de la Genèse ou de l'Exode, qu'est-ce que vous auriez pris? Ben voilà, n'importe qui aujourd'hui prendrait un prince d'Égypte qui a 40 ans, puissant en parole et en œuvre, etc., 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 plongé dans la sagesse. Il avait fait toutes les universités les plus prestigieuses de l'époque. Et Dieu lui dit non. Dieu va choisir un vieux berger, qui est le même homme, bien sûr, de 80 ans, qui s'appelle Moïse. Mais pendant 40 ans, il a accepté. Il a accepté ce travail d'épreuve, de raffinement, etc. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais moi, je m'adresse surtout à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Parce que est-ce qu'il y en a des gens ici qui veulent faire vraiment la volonté de Dieu? Elle est là, la question. Vous ne savez pas? Certains frères et sœurs là, qui venaient d'Afrique, vous êtes venus pour vos études, vous êtes venus pour étudier, vous êtes venus pour faire un stage. Mais moi, je crois que Dieu vous a envoyé ici pour que vous appreniez certaines choses. Vous l'acceptez? Peut-être que vous dites, ouais, moi, je ne me plais pas à Toulouse, je souffre du racisme. Mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Est-ce que Joseph n'a pas souffert du racisme dans la prison? Vous croyez que c'était tout rose, même si Dieu a béni? Et les gens, ils ne calculent pas le court terme. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, considérer comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. Dieu pouvait utiliser Joseph. Dieu peut-il utiliser l'Église? Dieu peut-il utiliser l'Assemblée? Dieu peut-il vous utiliser? Dieu peut-il m'utiliser? Est-ce que c'est important pour vous que Dieu vous utilise? Répondez-vous. Je vous pose de nouveau la question. Est-ce que c'est important que Dieu vous utilise? Ou continue à vous former pour pouvoir mieux vous utiliser? Joseph méritait-il la prison? Est-ce qu'il l'a mérité? Non. Mais il a tenu bon. Et il a bien réagi dans l'épreuve. Quand vous voyez... Bon, vous connaissez l'histoire de Joseph. Vous le voyez avec les... Tout d'un coup, par hasard, arrive dans la prison... Deux personnalités de chez Pharaon, les chansons et le panetier, vous savez, comme par hasard. Voilà, ils arrivent dans la prison et ces deux hommes, les chansons et le panetier se retrouvent dans la prison. C'est là qu'on voit que les voix de Dieu. Et quand on comprend la fin, on dit quand même, Seigneur, tu es bon. Bon. Et regardez la réaction de Joseph. Il va être utilisé par Dieu. Vous avez vu ces paroles? Regardez avec moi, Genèse 40, verset 7. Mais il faut le voir. Donc, Dieu permet que dans la prison, la même prison, soient enfermées ces deux personnalités de Pharaon. Voyons, on va lire le verset premier. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Donc, ils avaient de quoi être en prison. Eux, ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Plus qu'ils avaient offensé Pharaon, eh bien, ils méritaient la prison. Si on mettait en prison aujourd'hui tous ceux qui offensent le chef de l'État, il n'y aurait pas beaucoup de chômage. Le roi d'Égypte. On va lire ce qui nous intéresse. Verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, regardez le comportement de Joseph. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en prison parce qu'il a été droit. Il est en relation avec deux prisonniers qui sont en prison parce qu'eux, ils ont fait le mal. En tout cas, il y en a un des deux qui a fait le mal, c'est sûr. Et Joseph se préoccupe du bien-être de ces deux gars. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Parce que s'il y en avait un qui avait raison de bouder, à la limite, c'était bien Joseph. Oui ou non? Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que vous avez à bouder? Vous, c'est votre faute, mais moi je suis là, moi j'ai été droit devant, j'ai cherché. Et voilà, il aurait pu râler. Est-ce qu'il aurait pu râler? Il y a des gens, ils râlent tout le temps. Tout le temps. tout le temps, ils râlent. Mais c'est quand même grave. Après, ils vont vous parler en langue dans l'église. Moi, je vous avoue que ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Je vais revenir à mon sujet. Ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles que ça nous autorise à être désagréable avec les autres. Parce qu'on le voit, ça, des chrétiens. Oui, tu comprends pas, si tu savais ce que je traverse, eh bien peut-être que tu comprendrais ma colère, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parce que je traverse une épreuve, je vais être désagréable avec les uns, avec les autres. Parce que je traverse une épreuve, je vais être désagréable avec mes frères, avec mes sœurs dans l'église. Non, je suis désolé. Là, vous en avez la preuve. Un homme qui s'intéresse aux autres malgré l'épreuve. Vous avez vu, on peut rester intègre, on peut rester droit, même si on traverse des moments difficiles. Et s'occuper des besoins des autres. Ah, moi, non, je ne fais plus rien. Je viens de traverser cette épreuve, moi, je ne fais plus rien, qu'on ne me demande rien. Vous savez, moi, je crois que la meilleure façon de traverser une épreuve, c'est de continuer à aider les autres, de continuer à les aimer. Voilà. Il aurait pu leur dire, oui, c'est votre faute, etc. Au contraire, Joseph va les écouter. Il va vraiment les écouter. Et il va même interpréter leurs songes. Vous avez vu les deux songes? Il y a les chansons qui, lui, il n'avait pas été maladroit, il n'avait pas péché contre Pharaon. Par contre, le panetier, c'était lui qui avait péché. Et regardez l'intégrité de Joseph. Parce que j'y reviens à cette histoire. Parce que l'Éternel fut avec Joseph, c'est vite, vite lu. Mais de voir l'intégrité de ce garçon, qui est jeune encore, il n'a pas 30 ans, puisqu'il va y avoir encore 2 ans, il va être oublié, donc il a 28 ans maximum, il n'a que 28 ans, c'est jeune à 28 ans, oui, et cet homme a décidé d'être intègre. Ces hommes vont raconter le songe, chacun va raconter le songe, donc Dieu dit à Joseph dit à les chansons, eh bien, écoute, voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Mais dans 3 jours, Pharaon va te sortir et tu retrouveras ta place des chansons. Le deuxième, il voit que le songe s'est bien passé, l'explication s'est bien passée. Et voilà que le panetier, il va expliquer, écoute, moi j'ai fait tel songe, voilà, est-ce que tu peux me l'expliquer? Et Joseph, avec beaucoup d'intégrité, va dire au panetier que dans 3 jours, il va mourir. Réfléchissons un instant. Il aurait pu dire, écoute, moi je ne sais pas trop ton songe. Il aurait pu, vous voyez, parce que dire la vérité, ce n'est pas toujours facile de dire la vérité, oui ou non? Et voyez, ce n'est pas parce qu'on est éprouvé, il va dire avec sagesse et tact la vérité. Mais moi je trouve que c'est formidable d'aimer la vérité. Il aurait pu dire au panetier, écoute, ton songe là, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il n'y en a pas qui l'auraient fait ça? Mais si, il y en a qui l'auraient fait. Il est intègre. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve, ce n'est pas parce qu'on est traité injustement, ce n'est pas parce que les autres, eux, sont dans le péché, qu'il faut être désagréable, mais il faut continuer à aimer la vérité. C'est une question que Dieu pourrait poser aujourd'hui dans l'Église. Est-ce que vous aimez la vérité? Vraiment la vérité? Parce que la vérité nous affranchit et la vérité nous rend libres. Moi, je bénis Dieu pour l'intégrité de ce garçon qui n'avait que 28 ans maximum à l'époque où ces choses se sont passées. Et là aussi, l'occasion se présente de sortir de prison. Vous êtes d'accord? Puisque les chansons étaient quelqu'un de très, très, très près de Pharaon. Puisque tous les jours, il goûtait la nourriture, en particulier le vin. Il goûtait le vin que le Pharaon allait boire. Donc, il était constamment en présence du Pharaon. L'occasion se présente de sortir de prison, il a dû se dire, bon, cet homme, il a la confiance de Pharaon, c'est clair, il va me tirer de là. Pff, Seigneur, merci. Merci de m'envoyer ce bonhomme. Regardez, chapitre 40, verset 23. On va lire le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et les 5 premiers mots du chapitre 41, ça se lit très vite, très très vite. Au bout de 2 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait 28 ans, puisqu'après on sait qu'il a 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ses voix ne sont pas nos voix. Que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ah, les gens qui vous ont oublié. Les gens à qui vous avez rendu service et qui vous ont oublié. Est-ce que ça peut arriver? Les amis qui vous ont oublié. Les gens qui se sont moquer de vous. Eh bien, moi, si c'est ça, t'es chrétien, celui-là, il s'est moqué de moi, eh bien, c'est terminé. Combien de fois on a entendu des gens dire, moi, j'ai donné 20 euros, eh bien, je me suis fait avoir, le gars, il avait de l'argent. Mais j'aide plus personne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réaction? 3 minutes, oui. Qu'on dise ça 2 minutes, oui. Mais est-ce que vous croyez que c'est intelligent de parler comme ça? Moi, je crois que Dieu peut permettre ces situations. Les gens qui nous ont oubliés, est-ce qu'on va devenir amer? Parce que des gens nous ont oubliés. Il y a des gens qui ont abandonné l'Église. C'est l'Église, le corps de Christ. Tout simplement parce qu'ils ont été déçus par quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçus? On va faire plus de mieux. Qui n'a jamais été déçu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Joseph a-t-il été oublié? Mais si on réfléchissait bien, si Joseph était sorti là, est-ce que vous pensez qu'il serait devenu Premier ministre? Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il serait devenu Premier ministre. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est en train de vous bénir. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi j'ai été béni par Dieu, j'ai un travail, j'ai un toit, je ne manque de rien. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi je suis béni? Est-ce que vous acceptez de dire ce matin, dans votre cœur, j'accepte, Seigneur, que tu n'as pas fini de me former? Est-ce que vous acceptez que Dieu continue à vous former? C'est ce qui se passait dans la vie de Joseph. Dieu n'en avait pas fini. C'est pour ça qu'il a fallu encore 2 ans, au bout de 2 ans. C'est sûr, quand on lit ces 5 mots, c'est vite fait. Il faut combien? Une demi-seconde pour lire au bout de 2 ans. Mais ça dure quand même 2 ans. Pendant 2 ans, il a été oublié. Et apparemment, rien ne se passait. Peut-être qu'il aurait pu avoir de l'amertume. Est-ce qu'il aurait pu avoir de l'amertume? Ben oui, il y a des gens qui sont amers. Moi, c'est une... Quand je vois des pécheurs qui sont amers... Je comprends, mais quand je vois des chrétiens amers, ça me brise le cœur. Parce que je sais que ce sont des chrétiens qui n'ont pas compris ce qu'on est en train de partager. Peut-être que nous y sommes pour quelque chose de nous les pasteurs, d'avoir pas suffisamment bien expliqué. Mais même si vous n'avez pas un bon pasteur, vous avez tous la même Bible. Vous êtes d'accord? On a tous la même Bible et ces choses-là, Dieu peut nous les montrer. Mais pendant ces 2 ans supplémentaires où apparemment, eh bien, celui qui aurait dû lui rendre service l'a oublié, il ne l'a pas oublié. C'est Dieu qui a permis que Joseph reste 2 ans de plus en prison parce que Dieu était en train de faire un vase. C'est ça que l'on veut. Est-ce que vous acceptez de devenir un vase? Un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Regardez Job, je vous lis une parole de Job à laquelle je pense souvent. Job 23, verset 10. Il parle de l'épreuve. Job a été éprouvé. Et voilà ce qu'il dit. Quand il m'aura éprouvé. Alors, quand il m'aura éprouvé, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Ne le cherchez pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Quand il m'aura éprouvé, que j'aurais passé le test, Dieu, ben je retrouverai tout mon argent. Est-ce que Job était riche? Il aurait pu dire, oui, quand il m'aura éprouvé, de toute façon, il n'y a pas à faire. Dieu, je retrouverai fortune. Je referai fortune. Hein, je récupérerai tout ce que j'ai perdu. Après l'épreuve, eh bien, mes amis, parce qu'il avait 3 amis spéciaux, il y a des gens qui sont particuliers, et très spirituels, parce qu'ils étaient spirituels, je vous le dis. Enfin, ils étaient spirituels. Ils connaissaient la loi. C'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on est spirituel. Les 3 amis de Job, je peux vous dire qu'ils ne l'ont pas aidé avec leurs propos super, super spirituels. Et il aurait pu dire, bon, une fois que j'aurai été éprouvé, moi je veux que mes amis et ma femme... Parce que bon, il y avait aussi des petits trucs. Viennent s'excuser. Est-ce qu'il aurait pu le dire? Il y a des gens, oui. Moi, j'attends qu'on vienne me faire des excuses. Le gars, il s'est loupé. Il m'a manqué de respect. Eh bien, il a intérêt à venir. Si tu peux le lui dire, d'ailleurs, fais-lui comprendre. Job, qu'est-ce qu'il dit? Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Là aussi, on peut se dire, tiens, quand on voit rien que cette parole, on voit quelqu'un qui accepte l'épreuve. Vous voyez l'état d'esprit? Ça nous permet, franchement, en toute humilité, de comprendre l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voulez que les gens viennent s'excuser? Parce que Joseph, il aurait pu dire, si ce que j'ai rêvé, ça vient de Dieu, quand je sortirai de prison, les frangins, non mais je ris, mais les frangins, ils vont charger. Les chansons, Il va en avaler du vin. Est-ce qu'il aurait pu être amer? Franchement, est-ce qu'il n'aurait pas pu l'être? Vous avez vu ses frères quand il les a revus? 20, il y a 13 ans d'épreuve, les 7 années d'abondance, il avait 7, 20, à peu près 2 ans de famine, donc 22 ans après, 7, 27, ouais, 22 ans à peu près, il leur donne à manger. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a pardonné? Eh bien, il fait du bien. à ses ennemis, à ceux pour qui quand même il a passé 13 ans, presque en prison, dans des difficultés difficiles. Et voyez, si vous nourrissez le désir de dire si Dieu me bénit, si je sors de l'épreuve, eh bien celui-là je vais y faire comprendre, Dieu ne vous bénira pas. Il vous bénira. Il fait pleuvoir son soleil, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, etc. Mais mes frères et sœurs, nous ne serons pas ces vases que Dieu veut que nous soyons si nous n'acceptons pas toutes les épreuves que nous traversons. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Il veut faire des progrès, Job. J'espère que c'est votre désir. Oui, j'accepte. J'ai peut-être été oublié par les hommes, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a permis que je sois oublié? Et je vous en supplie, si en ce moment vous vous bagarrez, oui, celui-là au boulot, j'ai rendu service, et maintenant il me fait la tête, eh bien peut-être que Dieu l'a permis. Est-ce que ça peut arriver? Vous avez vu Jésus, comment on l'a traité? Vous avez vu, qu'est-ce que c'est à côté de nos injustices, à côté de celles que Jésus a traversées? Mes frères et sœurs, Joseph a été oublié par les hommes parce qu'il était encore en train d'être formé. L'or avait besoin d'être purifié. Son cœur avait besoin d'être changé. Est-ce que vous pensez que votre cœur, mon cœur, a besoin d'être changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « oui, j'ai besoin de changer encore » Est-ce que vous pensez que c'est juste si je vous dis en tant que votre pasteur, écoutez mes frères, priez parce que je veux encore changer. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous préféreriez que je vous dise, voilà, je suis parfait, vous devez le constater. Qu'est-ce que vous préférez? Que je prie pour que je change encore? Bien sûr, nous, c'est pareil pour tout le monde. Son cœur avait besoin d'être changé, notre cœur a besoin d'être changé. Et ne vous énervez pas contre tous les échansons qui vous ont oublié. Ça peut arriver que des amis vous aient oublié, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien, il y a des gens qui disent ça sert à rien cette épreuve, ça sert à rien. Mais qui, franchement, qui êtes-vous, qui sommes-nous pour dire ça sert à rien? Il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, et il y en a, hein. Vous savez les églises, dans Toulouse il devrait y avoir je ne sais pas combien d'églises en plus, avec des gens remplis de cette reconnaissance. Et ils n'y sont pas, peut-être ce matin il devrait y avoir plein de gens en plus, qui n'y sont pas, bon, il y a ceux qui n'ont pas pu venir, mais je pense à ceux qui devraient être là, parce qu'ils n'ont pas compris ce que je suis en train d'expliquer. Oui, les épreuves, ça sert à quelque chose, mais peut-être pas pour maintenant, peut-être pour plus tard. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ne vous énervez pas contre les gens, ne vous énervez pas contre les gens qui vous ont oublié. Remerciez le Seigneur. Vous croyez que Dieu vous oubliera, lui? Imaginons que vos amis vous oublient. Bon, c'est pas bien. Et même, vous croyez que Dieu va vous oublier, pas vous oublier? Est-ce que quelqu'un pense que Dieu pourrait l'oublier? Est-ce que vous voulez, on n'a pas le temps, que l'on lise tous les textes où Dieu dit « Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Si vous voulez, on les prend, on va dans Ésaïe, et je peux vous dire qu'on va attendre le deuxième culte avec joie, parce qu'il y a énormément de promesses où Dieu dit « Je ne t'oublierai pas. » Même si ta mère t'oubliait, même si celle qui t'a enfant, même si une femme oubliait son enfant, qu'elle a allaité, moi, le Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Dieu ne pouvait pas oublier Joseph. En tous les cas, Joseph, bien sûr que c'est pas le poste de Premier ministre nous qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est de voir comment Dieu l'a utilisé pour bénir toute une nation. Oui, même peut-être que Joseph, lui, il a vu que une petite partie, mais regardez les voies de Dieu. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine que Joseph vive ce qu'il a vécu? Et pourquoi il a pu le vivre? Eh bien, parce qu'il avait confiance en Dieu. Il a été premier ministre dans l'abondance, regardez son comportement, regardez-le dans la prison, regardez-le tout le temps, le souci d'être fidèle à Dieu. Et il a dit, on ne l'a pas lu, mais il a dit, mais c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Oui, c'est à Dieu qu'appartiennent toutes les explications. Moi, j'y comprends rien, mais je sais que c'est à Dieu qu'appartiennent toutes les explications. Ne vous aigrissez pas, ne soyez pas amers. On va chanter ce cantique. En son temps, parce qu'on l'a lu, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous le croyez? Dieu fait tout en son temps. Faites-lui confiance. Et si vous avez de l'amertume, de la rancune, pardonnez. Et dites merci au Seigneur. Est-ce que vous êtes capable de dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous les gens que j'ai jugés? Vous savez, l'Église ferait de grands progrès. Il y aurait bientôt un réveil si on croyait ces choses. Si on les vivait vraiment, et si on se mettait à dire, mais ces gars, ce meilleur ami, moi j'étais, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà été blessé par un ami? Mais vraiment blessé? Eh bien, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez-le.